Hello, hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Super content, super heureux de revenir vers vous avec encore plus de contenu et surtout une déclinaison dans la vie réelle du podcast. On a lancé les enregistrements publics en juillet avec Cédric. Et là, j'ai le plaisir de vous sortir le second avec Fatou Tanjongjay. On verra qui c'est Fatou tout à l'heure. Mais qui a eu lieu le 26 octobre dernier au Royal War Club. Et on a un prochain d'ailleurs qui est dans 3 jours. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, donc le 20 novembre, avec Penda So, qui est la directrice générale de PAPS en Côte d'Ivoire. PAPS Logistique est une entreprise qui est une start-up dans la logistique tech. On aura l'occasion de parler de Penda, mais pour aujourd'hui, Fatou Tanjongjay, qui a été notre invité. On a passé un excellent moment avec toute la communauté qui est venue nous soutenir, qui est venue écouter Fatou, qui a un parcours hallucinant. On aura l'occasion d'en parler. Fatou, elle est professionnelle de la communication depuis 10 ans, à la tête du cabinet qu'elle a fondé, qui s'appelle l'Adili Consulting. Fatou est spécialiste des marchés africains de la communication. Elle conseille et accompagne les entreprises et institutions panafricaines et internationales, ainsi que des personnalités dans leur stratégie de communication en Côte d'Ivoire, mais aussi partout en Afrique de l'Ouest. Depuis 2020, elle a fondé et dirige également Ira Media, qui est une régie publicitaire d'écran LED dans la capitale ivoirienne, donc Abidjan. Fatou est diplômée de l'EFAP, École des nouveaux métiers de la communication. Elle a construit son expertise au cours de plusieurs expériences dans des entreprises de référence mondiales reconnues pour leur savoir-faire. Je parle de Sachin Gad, de Publicis Consultant. Elle se fait rapidement remarquer pour sa capacité à mener de front des campagnes dans un environnement international. Elle intègre ensuite Jeune Afrique Media Group en tant que country manager. Elle gère une dizaine de pays, dont les plus stratégiques pour le groupe, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Burkina. Franco-malienne, Fatou a pu tout au long de sa carrière et de sa vie naviguer entre l'Afrique et l'Europe, ce qui lui a fait un atout majeur dans la compréhension des enjeux politiques, sociaux et économiques de ces deux régions du monde. Elle a contribué au développement et à la promotion commerciale d'Africa CEO Forum. Elle est promue directrice d'Afrique de l'Ouest pour Jeune Afrique, en charge du pilotage de l'animation du pilotage et de l'animation de toutes les activités du groupe en Afrique de l'Ouest depuis Abidjan. Fatou, en 2018, est part de Jeune Afrique et crée l'Adili Consulting qu'elle dirige, ensuite Ira Media, elle crée ces deux structures pour pouvoir répondre à une demande qu'elle voyait croître, qui est de valoriser les activités et les engagements de ses clients auprès de leur public cible et de construire avec eux leur image de marque. Donc voilà, on a passé cet excellent moment-là. Moi, je vous invite à écouter Fatou, à apprendre de ses leçons, de ce qu'elle a bien voulu nous partager sur son retour en Afrique, sur les valeurs qu'elle met en avant pour pouvoir développer son business, sur l'usage de sa réputation qu'on construit au sein de grands groupes pour pouvoir ensuite marquer sa propre marque, sa propre marque personnelle. Et en faire un levier de création de valeur, d'obtention de clients. Bonne écoute. J'ai hâte, moi, pour ceux qui sont à Abidjan, de vous retrouver jeudi prochain au Royal War Club à 18h. Le lien d'inscription sera dans les notes du podcast. Très bonne écoute encore et à très vite. Salut.
Je vais du direct, on va tester le micro. Tu parles, oui. Je regarde si c'est bon. Pas besoin de te... Juste comme ça, mets-toi à l'aise.
D'accord.
Le plus à l'aise possible, comme ça je vérifie si c'est toujours bon. C'est bon ? Ok, on est bon. C'est bon pour les photos ? Myriam ? Mettez-vous à l'aise et quand c'est ok, on commence. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fatou.
Bonjour.
N'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez pas du coup. Merci beaucoup Fatou de nous donner de ton temps pour revenir sur ton parcours, pour venir dans le podcast To The Mentor. Je remercie aussi l'assistant, j'ai déjà fait avant de lancer l'interview, de venir pour Fatou, pour le podcast, pour pouvoir revenir sur son parcours. On va revenir globalement sur le parcours de Fatou, sur on va parler brièvement de son enfance, de comment elle a grandi. On va ensuite parler de son parcours d'études professionnelles rapidement aussi. On va faire un gros focus sur sa carrière. Et ensuite, on va parler enfin de ce que Fatou a envie de partager avec nous, des valeurs qui ont porté sa carrière, de ce qu'elle a envie de projeter pour le futur. Donc Fatou, moi, ça fait un moment que je la suivais sur Instagram, donc j'avais pas eu l'occasion de discuter avec elle sur son parcours, sur ce qu'elle faisait chez Jeune Afrique. Donc Fatou était country manager à Paris pour Jeune Afrique et s'est installée à Abidjan en 2017 en tant que directrice Afrique de Jeune Afrique, Afrique de l'Ouest, pardon. Et ensuite, elle a monté sa boîte, la Dili Consulting, qui est une boîte de consulting, de communication, de conseil en communication. Elle nous expliquera ce que la Dili fait. Et ensuite, elle a encore monté une deuxième boîte, donc Yira.
Yira Media.
Yira, pardon, ouais. C'est-à-dire à chaque fois j'écorche. Donc Yira Media, donc on parlera de tout ça. Mais pour commencer, je vais demander à Fatou si elle était un combat, une grosse valeur, un gros combat, quel combat serais-tu ?
Alors merci Malik, déjà de me recevoir sur ton podcast.
Grand plaisir.
Si j'étais un combat, je pense que je serais celui de la préservation de la culture, des traditions et des valeurs. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et ça permet d'avoir un socle assez, assez fort en tant que personne. Donc je pense que c'est le combat que je porterais. La préservation des valeurs, de la culture et puis des traditions.
Ok. Fatou, comment tu grandis, dans quel contexte tu grandis, et quelles valeurs tes parents t'ont poussé, et qu'est-ce que ça fait de la personne que tu es devenue aujourd'hui ? Quel est l'impact de ton enfance sur la personne que tu es devenue aujourd'hui ?
Alors moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, et ensuite en région parisienne, et donc j'ai grandi dans un environnement assez préservé. Okay. Voilà. Donc pour mes parents, l'éducation était très importante. Mais pas seulement l'éducation, la transmission des valeurs, de la culture, étaient aussi des éléments très très importants. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'être la personne que je suis, donc, et d'avoir une fondation, enfin un socle qui est assez fort et qui me permet vraiment d'aller au-delà de ce que je peux proposer.
Ouais. Ok. On va commencer par les études. Est-ce que tu es en communication, tu as fait des études de communication, mais de ce que je comprends, c'était pas ton premier choix.
Alors, moi, j'ai fait un bac L, donc une littéraire. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les langues, voilà. Ensuite, je suis passée par l'université, mais très brièvement. J'ai fait un an en LLCE anglais, je ne sais pas si ça existe toujours. Donc, je pense que c'est langue, lettres et civilisation anglaise.
D'accord.
Ça ne m'a absolument pas plu, parce que c'était très, très théorique. Je ne m'y retrouvais pas. Et c'est pendant cette année que je me suis dit que je ne pouvais pas continuer, en fait. Ce n'est pas assez pragmatique pour moi, c'est trop théorique. Et du coup, je me suis inscrite dans une école de communication, des métiers de la communication, qui est l'EFAP. Okay. J'ai passé le concours et j'ai été retenue. Et c'est comme ça que je me dirige un petit peu vers le monde de la communication.
Et l'EFAP, tu connaissais déjà ? Ou quelqu'un, enfin, comment tu veux aller à l'EFAP ? C'est particulier, c'est...
Ce que je savais, c'est que je voulais faire de la communication.
D'accord.
Donc tout simplement, je suis allée sur Google et j'ai tapé le classement des écoles de communication. Et j'ai vu que l'EFAP était bien noté, en fait. Ça faisait partie vraiment du top. Et voilà comment je m'inscris à l'EFAP.
Et l'EFAP, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est sur dossier ? C'est un concours ?
C'est sur dossier, c'est un concours aussi. Voilà.
D'accord, les deux.
Et c'est une école qui existe depuis, je pense, peut-être une cinquantaine d'années.
D'accord.
C'est vraiment une institution.
Ok. Et à l'EFAP, déjà, tu construis ton parcours, tu sais déjà ce que tu as envie de faire en termes de métier de communication, ou c'est pendant ton parcours là-bas que tu découvres la globalité des métiers de la communication et que tu fais un choix ?
Alors, c'est pendant que je suis là-bas que je découvre un petit peu le portefeuille de métiers que la communication offre. Et vraiment, j'avais pas du tout d'idée, en fait, du métier que j'allais exercer. Du coup, à l'EFAP, on nous permet vraiment d'avoir une formation, d'être un peu dans le monde de l'entreprise chaque année.
Une alternance. Et,
voilà. Okay. Bon, c'était pas vraiment une alternance, mais voilà, c'était plus des stages.
D'accord.
Voilà. Mais qui prenait de plus en plus de place selon les années, quoi.
D'accord.
Donc du coup, je m'essaie à plusieurs choses. Je suis en stage chez l'annonceur. ensuite dans une agence de com. Donc voilà, ça m'a permis vraiment à... J'ai aussi été à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé avec un député.
Ok.
Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des expériences différentes qui m'ont permis de me guider un peu vers...
Ça me vient comme ça, est-ce que tu veux en parler un peu ou pas de ton expérience à l'Assemblée nationale ?
Bon, c'était il y a longtemps, ouais. Et c'était avec un député qui s'appelait Renaud Muselier.
Ok.
Voilà, donc qui est toujours d'ailleurs en activité, ouais. Donc qui était...
président, enfin aujourd'hui président du conseil régional de PACA.
Exactement, ouais. Exactement. Donc je travaillais dans son cabinet avec l'attaché parlementaire.
Ok.
Parce que j'ai une de mes passions, c'est la politique.
D'accord. Ok. Et en sortant de l'EFAP, tu rejoins Stachi, qui est une boîte, qui est une grande boîte de communication qui est basée à Londres de mémoire. Donc Stachi, ensuite on verra bien Publicis, GIA. C'était construit comme choix d'aller c'est dur à dire.
Stachi.
Ou c'était le fruit de l'histoire du hasard des rencontres.
Alors moi, je suis quelqu'un d'assez instinctif.
D'accord.
Donc je n'aime pas dresser en fait de plans ou voilà. Non, je ne fais pas ça.
Okay.
Donc c'était vraiment au gré des opportunités. Et d'ailleurs, donc j'ai eu la première expérience en agence de communication qui était chez MNC Sachi GAD. Donc qui a été une belle expérience. C'était ma première fois en fait d'être en agence de communication, mais c'était toujours pendant mes études.
Okay.
Donc, il y a des personnes qui aiment vraiment tout planifier, mais moi, je ne planifie pas.
À l'instinct.
Ouais, voilà.
Ok. Et donc, Sachi, est-ce que tu veux revenir un peu sur ce que tu as appris d'un grand groupe comme celui-là, sur des valeurs travail, sur la communication, sur des comment un client, comment on traite un client, enfin, tes grands apprentissages chez Sachi?
On travaille déjà sur des comptes très spécifiques. Voilà. Quand on est en agence de communication, c'est des comptes très précis, c'est des clients, des annonceurs. Voilà. Donc, on ne touche pas forcément à tout.
Okay.
Voilà. On est vraiment sur quelque chose d'assez défini. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit l'organisation d'une agence de communication avec tous les métiers que ça implique. On voit aussi comment soumettre ou comment répondre à des appels d'offres qui font partie de la vie d'une agence de communication. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait. Donc, ça permet vraiment de sentir un peu toute l'énergie, l'émulation qu'il y a quand on travaille dans une agence de communication.
Ok. Ensuite, tu fais de la consultance pour Publicis. Pareil, grand groupe. Mêmes apprentissages, des choses qui changent
Alors, Publicis, c'est Publicis Consultant, qui était vraiment la branche institutionnelle du groupe Publicis. Donc, Publicis, tout le monde connaît. C'est quand même une des premières agences en termes de communication, je pense, dans le monde, je dirais. Et du coup, j'étais sur cette branche institutionnelle. Donc, c'était durant ma dernière année. Donc, c'était un stage qui était assez long et intéressant. Donc, pareil, ça m'a permis de renforcer un petit peu ma compréhension du fonctionnement d'une agence de communication. Je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais sur la réforme des retraites, qui était un sujet qui était important en France. Voilà, je sais plus c'était en quelle année.
C'est de 2012, du coup.
En tout cas, dans cette zone-là. Oui. Non, c'était peut-être avant. Ouais. Donc voilà, donc on travaille sur des sujets qui sont très importants, qui ont un impact important pour le pays, pour la société.
Quand tu dis travailler dessus, c'est définir les éléments de langage pour que celui qui fait la commande puisse... D'accord. Okay.
Voilà, donc le client était l'État.
D'accord.
Donc du coup, il faut travailler sur toute la stratégie, en fait,
d'accord,
pour que cette réforme puisse...
C'est en termes de communication auprès du grand public.
Donc c'est vraiment de la communication institutionnelle.
Ok. Ensuite, tu rejoins Jeune Afrique, donc premier vrai CDI, on va dire.
Ouais.
Pareil, même question, est-ce que c'est construit? Est-ce que c'est le fait du hasard? Et si c'est le fait du hasard, il faut nous dire quel hasard.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'arrive chez Jeune Afrique... par hasard.
Okay.
Dans le sens où, pendant mes études, j'étais beaucoup dans le monde associatif. Donc aussi bien dans une association qui était franco-malienne, de deuxième génération. Ensuite, j'ai fait partie aussi de l'ASPA. Je vois d'ailleurs Abinia Kate qui est ici, et je pense que c'est là qu'on s'est connus il y a déjà quelques années.
Association de Sciences Po pour l'Afrique.
Exactement. Et donc du coup, suite à tout cela, j'ai un ami qui me dit « Mais écoute, tu as une bonne base de données. » Et je pense que ça peut intéresser Jeune Afrique. Je connais quelqu'un là-bas qui veut justement pousser un peu plus Jeune Afrique auprès des étudiants, auprès des jeunes Africains. Voilà. Donc, il m'organise le rendez-vous. Je vais chez Jeune Afrique. Donc, je rencontre Florian Serfati, qui me parle de tout, mais sauf de ça. Il me dit,
travail.
Sauf de cette base de données.
Ah, ok, en fait, d'accord.
Voilà.
Ouais.
Donc, la raison pour laquelle j'y vais, Il me parle de... Il me dit que Jeune Afrique cherche à recruter un country manager. Il m'explique le poste. Je n'y comprends absolument rien. Il me demande d'envoyer mon dossier, donc lettre de motivation, CV, etc. Donc je lui réponds OK, mais je n'avais vraiment pas compris grand-chose, en fait. Du coup, je rentre. Quelques jours après, il me relance, parce que moi, je n'avais pas pris ça très au sérieux.
D'accord.
Et je me rappelle que j'y suis allée donc, avec un ami. Et le vendredi soir, Jeune Afrique avait déjà fermé. Et je glisse sous la porte l'enveloppe avec le CV et la lettre de motivation. Comme ça. Et il me rappelle. Et c'est là que je passe une série d'entretiens. Et voilà comment je suis retenue et comment je rentre chez Jeune Afrique.
Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que l'Afrique t'intéressait déjà en termes professionnels? Ou est-ce que c'était vraiment, comme tu dis, le hasard et... Enfin, je sais qu'il y avait l'ASPA, donc il y avait déjà des sujets africains qui te touchaient.
Oui, l'Afrique m'a toujours intéressée, vraiment.
D'accord.
Voilà, je suis africaine, donc forcément, voilà. Mais c'est vrai que je ne pensais pas peut-être commencer ma carrière dans une entreprise qui allait vraiment avoir des intérêts, en fait, sur le continent. Donc ça s'est fait vraiment un peu au hasard, et je pense que le hasard a bien fait les choses.
OK. Donc on va ouvrir le chapitre Jeune Afrique. Tu intègres Jeune Afrique en tant que country manager.
Oui.
Donc, mais basé à Paris.
Basé à Paris, oui.
Et le country que tu es censé manager, c'est Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, pardon, country manager, c'est les...
Enfin, plusieurs pays. Ouais. Alors, en fait, ce poste-là, c'est un poste... Bon, le siège de Jeune Afrique est à Paris.
D'accord.
Dans le 16e. Du coup, c'est là-bas que je travaille. Mais j'ai à ma charge certains pays.
OK.
Voilà. Donc, j'ai eu à travailler sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, le Togo... le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville. Voilà, j'ai eu comme ça pas mal de pays que j'ai eu à gérer. Et l'objectif derrière ça, c'était comment, en fait, en rencontrant tous les décideurs politiques, économiques, le tissu des entreprises privées sur le continent, comment leur proposer, en fait, la plateforme que Jeune Afrique offre pour qu'ils puissent justement communiquer et mettre en avant les services et les produits qu'ils ont.
Okay.
Parce que Jeune Afrique, c'est quand même une force de frappe.
Bien sûr.
Et je pense que c'est intéressant pour ces décideurs, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, mais de faire passer des messages.
Donc c'est du business développement.
Business développement, pur et dur.
Okay.
Et moi, j'étais communicante.
Et tu...
J'avais jamais fait de
business. on va parler de ton âge, mais tu es très jeune à ce moment-là.
J'ai commencé à, je crois, 23 ans. 23 ans, 24 ans.
Et donc
juste après.
Tu débarques en Afrique, il faut que tu parles déjà des chefs d'institution, souvent des ministres.
Les premiers ministres, donc c'est vrai que quand je prenais les rendez-vous par mail et quand tu arrives, après les gens se rendent pas compte, voilà, les gens sont un peu toujours étonnés parce qu'ils se disent, bon, on pensait qu'on parlait à une dame, quoi.
Ouais.
Non, c'est juste moi. Donc, oui, et ça a étonné beaucoup.
Okay.
Ça a étonné beaucoup. Et à l'époque, j'avais les cheveux un peu, voilà, à l'air, en fait.
Ouais.
Et du coup, bah, quand tu arrives comme ça, les gens, ils sont vraiment estomaqués, quoi.
Ouais.
Et ça peut être impressionnant quand on est jeune de venir sur le continent et d'être en face de chefs d'entreprise établis, en face de membres du gouvernement qui sont là, qui connaissent leur sujet et de devoir vraiment leur proposer
des services de
ta
boîte.
Et après, on s'y fait.
Est-ce que tu as des anecdotes sur tes débuts? Qui sont marquants, qui pourraient nous apprendre, peut-être que des gens qui sont dans la salle ont déjà vécu la même chose, ou tu savais pas trop quoi faire parce que c'était trop, beaucoup ou pas assez. Est-ce que t'en as qui te viennent comme ça?
Bon, là, comme ça, j'ai pas d'anecdotes comme ça qui me viennent en tête, mais ce que je peux dire, c'est que quand on partait en mission, on partait en mission pendant 3 semaines, voire 1 mois.
Okay.
Il fallait que les objectifs soient remplis pour qu'on puisse rentrer. Et donc, faire 3 semaines, 4 semaines dans un pays, ce n'est pas toujours évident. Rencontrer vraiment tous les décideurs, s'adapter aussi à l'environnement du pays, parce que travailler au Burkina et aller à Pointe-Noire, ce n'est pas la même chose.
Bien sûr, totalement.
Je suis allée jusqu'au Katanga,
okay.
Donc en RDC. Donc, j'ai eu à rencontrer le président gambien, donc Adama Barrow.
D'accord.
Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est une petite anecdote, parce que il parle le soninké. Donc moi, je parle le soninké.
D'accord.
Et du coup, l'entretien s'est fait en soninké.
C'est vrai?
Parce qu'il parle pas le français.
Ah oui.
Ouais.
C'est anglais ou sénégalais, d'accord.
Ouais.
Ok.
Donc de se retrouver face à un chef d'État comme ça et de parler bah, sa langue, ouais.
Ok.
Africaine, ouais.
Mais du coup, enfin ça, bah, heureusement que tes parents, comme tu disais tout à l'heure, l'attachement aux traditions,
oui.
te l'ont transmis. Parce que très honnêtement, j'aurais été dans ta situation, j'étais foutu.
Ouais. ouais. Et c'est pour ça que je disais plutôt que c'est important pour moi tout ce qui est éducation ou transmission de valeurs, de culture, de tradition. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que moi je parle deux langues. Je parlais le bambara et le soninké. Donc vraiment, aujourd'hui, je vois la chance que c'est. Mmh. C'est parce que mes parents ont bien voulu me transmettre tout ça et ils ont bien voulu me mettre dans un cadre voilà, pour que je puisse évoluer dans ce sens.
Donc tu fais 7 ans. Mmh. Sur ce poste-là à Jeune Afrique, et ensuite on te propose de venir t'installer à Abidjan en 2017 à peu près en tant que directrice Afrique de l'Ouest. Tu dis directeur ?
Directrice. C'est ce que j'avais mis sur ma carte.
Bon, directrice Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc c'est un nouveau
challenge.
Pas que tu sautes, tu viens t'installer en Côte d'Ivoire, tu n'avais jamais vraiment vécu en Afrique, ni en Côte d'Ivoire qui n'est pas ton pays d'origine.
Tout à fait.
Comment est-ce que cette décision se prend ? Est-ce qu'elle se fait naturellement ? Est-ce que tu prends le temps de la réflexion ? Et puis, c'est quoi tes premiers jours à Abidjan, quoi ? Comment est-ce que tu les apprécies avec le recul en plus ?
Alors, Jeune Afrique n'a pas de bureau en Afrique subsaharienne. Donc ça peut paraître un peu étonnant. Mais c'est vrai que les bureaux qui existaient à l'époque, c'était le Maroc et puis la Tunisie. Donc l'idée, c'était de se dire comment on se rapproche un petit peu de notre cible, de l'écosystème, etc. Bon, on s'est dit, voilà, pourquoi pas ouvrir une sorte de représentation, en fait. Et j'ai été choisie pour diriger cette représentation parce que je travaillais déjà sur la Côte d'Ivoire et que la plupart de mes pays se trouvaient aussi en Afrique de l'Ouest.
D'accord.
Donc ça avait vraiment un sens. Après, c'était pas la première fois pour moi de venir...
C'est pas toi qui en demande, hein. c'est la boîte qui te demande ou c'est toi qui propose ?
Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, d'accord. mais je pense que la boîte en parle et puis m'en parle. Et puisque c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays que je gère. Donc en fait, c'est un peu
naturel.
Ouais, ouais. Et donc, ce n'était pas ma première fois en fait, de venir en Côte d'Ivoire parce que j'étais déjà country manager et je venais déjà en Côte d'Ivoire. Donc j'avais déjà eu ce contact avec la Côte d'Ivoire. Et si j'ai dit oui, c'est parce que j'ai senti que je pouvais me plaire en Côte d'Ivoire et que... Okay. Et que j'aimais beaucoup l'énergie, en fait. L'énergie de la Côte d'Ivoire, l'énergie d'Abidjan. On avait eu à faire aussi des Africa CEO Forum ici. Mm. Du coup, voilà, j'avais envie de faire partie un petit peu de toute cette émulation.
Ok. Et donc, comment tu arrives à Abidjan ? Est-ce que c'est conforme à ce que bon, tu connaissais déjà ? Mais le fait d'y vivre est totalement différent. C'est conforme à ce que tu attendais et comment tu t'es... Comment tu t'installes ? Comment tu prends tes marques à un premier temps ?
Alors, une chose est sûre, c'est que quand on vient en mission et quand on vit dans un pays, ce n'est pas la même chose. Mmh. Voilà. Donc, heureusement que je connaissais déjà parce que bon, je faisais pas mal de missions. Et c'est vrai que quand on fait des missions, on se prépare. Donc, je suis arrivée quand même préparée. Je suis arrivée, je n'ai pas envie de dire en terrain conquis, mais sur un terrain que je connaissais.
Okay.
Donc, l'installation s'est assez bien passée. Et donc, les interlocuteurs, je les avais aussi déjà. Mmh. Donc vraiment, c'était une transition assez soft. Ça n'a pas du tout été brutal.
Okay.
Ça a été soft. Et puis, ça s'est bien passé. Si bien que j'ai décidé d'y rester.
Oui. Est-ce que, de ton point de vue, donc il y a certainement des personnes dans la salle qui soit sont en train de faire ce chemin-là, ou soit sont déjà là, mais ils sont encore en réflexion. C'est quoi, c'est quoi les atouts pour l'installation en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que toi, t'as séduit, t'as fait rester ? Et aussi, potentiellement, on le sait tous, hein, il y a forcément des choses qui peuvent... des points de friction. Est-ce que tu en as, que tu veux partager ? Bon, il y a des personnes dans la salle, mais il y a celles aussi qui vont écouter, qui sont peut-être dans cette réflexion-là. Est-ce que tu veux nous partager, toi, concrètement, comment tu l'as senti pour revenir ?
Alors, qu'est-ce qui me pousse à rester à Abidjan ? Donc, c'est vrai que j'ai eu le choix. J'aurais pu me dire Dakar ou peut-être Bamako. Oh. Mais j'ai décidé Abidjan parce que, à force de travailler sur le continent et à force un peu de faire partie de cette équipe en fait qui met en avant les atouts en fait du pays, à travers notamment le Africa CEO Forum, bah, je me rends compte que la Côte d'Ivoire c'est quand même un pays qui offre énormément d'opportunités. C'est une plaque tournante. d'un point de vue géographique, parce qu'il est assez central, mais on a aussi beaucoup de sièges d'entreprises qui sont ici. Donc pour moi, c'était comment dire ça ? Oui, c'était naturel, c'était vraiment évident en fait.
Ouais. Bon, c'est vrai que les gens se posent beaucoup la question entre Dakar et Abidjan.
Alors moi, j'ai fait justement la plupart des pays.
Oui.
Et si j'ai choisi la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est aussi un pays qui est assez ouvert.
D'accord.
Voilà, c'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui est proche du Mali, donc vraiment la décision a été vite prise.
Okay. Ouais. Et les points de friction ?
Bon, je sais pas s'il y a des points de friction.
C'est vrai ?
Non,
Abidjan
vraiment.
Est parfait ?
Je dirais pas que c'est parfait, mais chacun a sa Côte d'Ivoire en fait.
Okay.
C'est-à-dire que moi, j'ai envie de chacun peut vivre la Côte d'Ivoire qu'il a envie de vivre.
Okay.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Okay.
Donc, j'ai pas de points de friction particuliers.
Donc tu crées ton entreprise ensuite, la Daily Consulting.
Oui.
Est-ce que tu veux me dire pourquoi tu décides de quitter Jeune Afrique ? Est-ce que te lancer dans l'entrepreneuriat, c'était naturel pour toi ? Est-ce que c'est une décision qui se fait à un moment donné, peut-être vis-à-vis d'une circonstance ? Pourquoi tu lances la Daily Consulting ?
Alors, je sentais que j'avais gravi déjà tous les échelons
chez
Jeune Afrique. Donc je ne pouvais pas gravir plus d'échelons en fait.
Directrice de Jeune Afrique ?
C'est une entreprise familiale.
C'est vrai. Bon.
Donc, je me suis dit, c'est le moment de voler de mes propres ailes.
Okay.
Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que pendant... c'est-à-dire que quand je venais en mission et que je rencontrais les décideurs politiques, économiques, je me rendais compte qu'il y avait une sorte d'amalgame qui était souvent faite par rapport au journalisme et à la communication.
Okay.
Et qu'il y avait aussi un vrai besoin en termes de communication et de visibilité. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais il y a 5 ans, il y a 6 ans, je trouve que nos États avaient du mal à se vendre. Ils avaient du mal à vendre aussi les politiques qu'ils mettaient en place. Ouais. Voilà. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait un déficit de communication quelque part.
D'accord.
Et même pendant les échanges que je pouvais avoir avec mes interlocuteurs. Et je me suis dit quand même, là, il y a quelque chose
à faire.
Il y a quelque chose à faire.
C'était adressé,
il y a une carte à jouer.
C'était pas adressé par les boîtes de communication, soit locales, soit internationales. C'était un greenfield où tu t'es juste dit, bon, ils le font pas comme je pense.
Mais déjà, il n'y a pas assez d'agences de communication.
D'accord.
Voilà. Il y a beaucoup d'agences de communication, mais des agences de communication agréées,
okay,
qui ont un fonctionnement d'agence de communication. Si on sort le ratio, je suis sûre qu'il y a une grosse différence.
Quand tu dis agréé, c'est pas un secteur réglementé, donc il ne faut pas d'agrément.
C'est un secteur réglementé.
Il faut un agrément
du Conseil supérieur de la publicité.
Ah, je ne savais pas.
Ah,
d'accord.
Oui. Ouais, pour être agence de communication, pour être régie publicitaire, etc. Voilà.
D'accord.
Donc la communication, c'est vrai, dans nos pays, se fait vraiment de manière un peu... j'ai pas envie de dire informel, mais on va pas toujours vers les personnes qui sont les plus à même en fait d'accompagner les entreprises dans leur communication.
Okay. Et donc tu lances ton entreprise, est-ce que tu fais face à des défis en particulier ? Est-ce que tu as des doutes ? Est-ce que tu as un moment de doute ? Ouais, est-ce que tu te dis à un moment donné, bon, j'aurais peut-être dû rester tranquillement directrice ? Ouais.
Alors je pense qu'un être humain qui n'a pas de doute, bah, c'est pas quelqu'un de, j'ai pas envie de dire normal, mais c'est quelqu'un qui se remet pas en cause ni en question. Donc c'est toujours bien d'avoir des doutes, parce que je trouve que ça nous permet de nous améliorer. Oui, j'ai eu des doutes. Oui, je me suis posé des questions. Oui, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Oui, sur plein de choses. Mais ce qui a été plus fort, c'est que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais.
Okay.
J'approchais mes 30 ans. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et me dire, mais pourquoi j'ai pas lancé ma boîte ? Donc je me suis dit, je lance ma boîte, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je retourne dans le monde du corporate.
Ouais. T'as balisé quand même le terrain, t'as pris...
Bon, j'avais quand même un carnet d'adresses.
Oui.
Voilà. Donc j'ai pu m'appuyer sur ce carnet d'adresses. J'ai fait le travail comme il fallait, en fait.
Okay.
Voilà. J'ai créé la société, J'ai suivi un petit peu tous les process qu'il faut suivre pour créer une société en bonne et due forme.
Et aujourd'hui, tu as des salariés ?
Oui, on est une dizaine.
D'accord. Mmh. Et est-ce que tu as des défis managériaux ?
Mmh.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous apprendre ou en tout cas discuter avec nous sur ton système de gestion managériale, tes équipes, comment ça se passe ?
Ouais, bah, j'ai des collaborateurs qui sont dans la salle d'ailleurs.
Ils pourront nous dire
et des anciens. Ce que je peux dire, c'est que quand on crée une entreprise, on n'est pas juste DG. On n'est pas juste CEO. On est aussi responsable des ressources humaines. On est aussi comptable. On est aussi commercial. On est aussi opérationnel. On est tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'on passe d'un poste où on a une fonction à un poste où on a plusieurs fonctions et qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, je n'ai pas fait d'études de comptabilité ni de ressources humaines. Donc, c'est des choses que j'apprends sur le tas. Donc, j'avance avec l'instinct. Je me fais aussi accompagner par des cabinets donc, pour essayer de mettre en place vraiment
toute ton organisation.
L'organisation, mettre en place une stratégie qui va tenir sur le moyen long terme. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, c'est...
À tâtons.
C'est à tâtons.
Ouais.
C'est vraiment à tâtons. Ouais.
Okay. Pourquoi la Dili, ça veut dire quoi?
Alors, la Dili en Bambara ou en Dioula ici, c'est le fait de conseiller.
D'accord.
Voilà. La Dilika.
Okay.
Donc c'est le fait de conseiller mais avec de la sagesse.
Okay.
Et d'ailleurs notre logo c'est un baobab parce qu'on sait que dans nos villages les sages aiment se réunir autour sous le baobab pour prendre les décisions importantes. Voilà.
Et Yiramedia?
Alors Yiramedia c'est le fait de regarder en fait.
D'accord.
Toujours en Bambara. J'ai pris le parti
de... tes inspirations, c'est
exactement.
Cohérent avec ce que tu nous as dit en début de la transition.
Voilà. Pour moi, il faut vraiment qu'on valorise nous-mêmes notre bien culture, sûr. Nos langues et tous les symboles en fait, qui font qu'on est en fait nous.
Oui.
Parce qu'on vient vraiment d'une histoire, d'une lignée, chacun autant qu'on est. Donc c'est important de le valoriser. Et, de...
et c'est quoi l'activité de, à la fois de la Dili et ensuite de Yira? Qu'est-ce que la Dili vend comme proposition de valeur?
Alors, la Dili est une agence de communication et propose différents services. Ouais. Donc, tout ce qui est branding, rebranding, donc tout ce qui est création artistique, direction artistique, ouais. Communication corporate, communication digitale aussi, tout ce qui est accompagnement en relations presse et en relations médias, okay. Et enfin de l'événementiel. On fait de l'événementiel, mais vraiment de manière très. De l'événementiel sur mesure.
D'accord. Et Yira?
Yira Media est une régie publicitaire, donc nous avons des écrans LED.
Okay.
Donc dans les 5-6 communes d'Abidjan. Et du coup, on permet aux annonceurs de faire passer leur message.
D'accord. Donc si Maison Tcheco veut passer un message, ils savent qui
exactement,
contacter.
Ouais.
On va passer au volet leadership féminin. Donc... Tu es une femme qui a une position de leader dans la société. Tu as gravi des échelons. Tu as certainement eu à combattre certains combats, pouvoir t'imposer, pouvoir t'installer. Est-ce que tu veux nous revenir un peu sur ton parcours, mais cette fois-ci de leadership féminin? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu veux donner des conseils à une majorité de femmes dans la salle? C'est vrai. Donc je pense qu'elles sont venues aussi pour écouter ça. Tes conseils pour pouvoir aller au sommet, est-ce que c'est des valeurs que tu mets en avant, est-ce que c'est de la compétence, et comment est-ce que tu as dû faire face à l'adversité des hommes, il y en a, au quotidien dans ton parcours?
Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut avoir des valeurs personnelles, intrinsèques. Pour moi, les valeurs qui sont importantes, c'est l'intégrité. Je crois beaucoup aussi en la valeur du travail. Il faut travailler, en fait. Les choses n'arrivent pas par hasard. On a tendance à faire croire aux gens qu'ils peuvent arriver loin sans travail. C'est faux, en fait. Ce qui va faire la différence entre deux personnes, c'est le travail. L'humilité aussi est une valeur importante pour moi. En tant que femme, je pense qu'il faut savoir se faire respecter. Il faut avoir des convictions fortes. Il faut que le message passe. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent rouler, hein.
Voilà.
Okay. Mais il faut avoir des valeurs, il faut se faire respecter et il faut être droit dans ses bottes en fait. Voilà. Donc,
Sororité ou est-ce que tu promeus la sororité? Est-ce que par exemple à Poste Égal tu prendrais plus une femme? Comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça par rapport aux femmes? Est-ce que non, tu prends un homme s'il faut un homme, ou est-ce que vraiment tu fais l'effort de pouvoir faire monter les femmes quand tu peux?
Alors moi j'aime beaucoup, je crois en la sororité et je crois aussi au fait que nous les femmes on devrait beaucoup plus se réunir et échanger sur nos problématiques et qu'on puisse aussi s'entraider, voilà, à travers déjà le partage, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai eu, dans mon recrutement, à employer beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Ouais. Parce que, en fait, bah, peut-être ça s'est fait de manière inconsciente, hein, mais je trouve que les femmes ont une certaine sensibilité.
Okay.
Et je le vois d'ailleurs maintenant de plus en plus, c'est-à-dire que sur certains postes, les gens aiment bien mettre des femmes parce qu'ils les trouvent un peu plus carrées. Je sais que sur des postes de banque ou voilà, ce genre de choses. Ouais.
Où est-ce que tu veux amener la Dili et Hira Media? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est quoi tes ambitions avec... Est-ce que tu veux peut-être monter d'autres boîtes? Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais c'est quoi? Et peut-être aussi, est-ce que tu as des projets non-profit, de partage? Je sais que ça te tenait à cœur de... de venir sur plusieurs monteurs et de partager. Mm-hmm. Est-ce que tu as des envies ou des projets de faire quelque chose de beaucoup plus pérenne à ton niveau, à toi?
Alors, aujourd'hui, je travaille à développer la Dili et puis Hira Media. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment que ces entreprises puissent se développer, mais toujours garder cette taille humaine, en fait. Pour moi, c'est important d'accompagner, en tout cas, les entreprises public et privé qu'on accompagne, mais de garder cette relation de proximité. Pour moi, c'est important, la proximité. Ouais. Le but, c'est pas de devenir en fait une très très grosse agence où vraiment il va y avoir énormément de hiérarchie. Voilà. En tout cas, moi, c'est pas mon objectif.
Okay.
Ça peut être l'objectif de certains. Ouais. Moi, je veux toujours garder un petit peu cette ce côté humain en fait.
D'accord.
Voilà, avec cette relation de proximité. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et oui, je pense que, enfin, je pense pas, je sais que je travaille sur des projets. Et je veux développer pas mal de choses. Je veux développer d'autres choses. Donc,
tu peux en parler
maintenant. Je ne veux pas trop en parler.
Ok, pas de problème. Alors, tu avais demandé à ta communauté de poser certaines questions.
Ouais.
Y a une question qui est revenue, qui était de savoir si la communication payait. Oui.
La communication paye. Peut-être pas autant qu'en Occident.
Okay.
Parce qu'ici, il faut vraiment se battre pour faire passer des budgets. Et souvent, la communication, elle est un peu... C'est un peu le petit canard. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait à la dernière minute, quoi.
Okay.
Donc, pas pour tout le monde, hein.
Bien sûr.
Mais je veux dire, ça ne paye pas autant qu'en Occident.
En Occident, ça pourrait.
Exactement. Parce que quand on envoie des devis ou des propositions, les gens sont tout de suite choqués. Voilà. Donc, ça ne paye pas autant. Mais ça pourrait bien payer.
Et comment tu arrives certainement à le faire, à convaincre des clients de la proposition de valeur? Est-ce qu'il y a des tips? Est-ce qu'il y a des petites...
Alors nous, sur notre positionnement, on a décidé de ne pas travailler avec tout le monde.
D'accord.
On ne travaille pas avec toutes les entreprises.
Okay.
On va vraiment cibler une certaine niche et on va travailler avec eux parce qu'ils vont reconnaître la valeur de notre travail.
Okay.
Donc l'objectif, ce n'est pas de travailler avec tout le monde en fait. Il faut sélectionner et rester vraiment assez ferme dans...
Des relations de long terme.
Exactement, ça c'est très important aussi.
Ok. De quoi es-tu le plus fier ou la plus fière du coup, pardon?
Ça c'est une question assez assez difficile, mais j'ai envie de dire peut-être ma réputation. Voilà.
Quel trait de caractère? Donc pardon, là on est en train d'arriver sur la fin tranquillement. Je pense que vous en rendez compte. Vous allez pouvoir poser vos questions tout à l'heure. Donc il y a des petites questions un peu tac au tac sur la fin. Quel caractère tu valorises le plus chez les autres?
La loyauté, c'est quelque chose de très important pour moi.
Quelles sont les valeurs et les qualités qui sont les plus importantes pour toi, donc pour toi-même?
Ah, pour moi. J'ai envie de dire, je pense que je l'ai dit plus tôt, l'intégrité, l'humilité et la valeur du travail.
Ce soir, chacun va rentrer chez lui. En ayant eu un moment d'échange avec toi, j'espère que tout le monde pourra parler avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne, que chacun retienne? C'est dur.
Ouais, c'est un peu dur comme question. Mais j'aimerais bien qu'on retienne un petit peu les valeurs dont j'ai parlé. Ouais, je trouve que ça, c'est quelque chose d'important.
Okay. Ouais. Est-ce que tu as un livre, une référence culturelle, ce que tu veux que tu partages le plus autour de toi?
Alors moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune qui s'appelle L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai dû le lire à une période où ça m'a vraiment aidée. Mmh. Et j'aime bien tout ce qu'il y a, tout le message qu'il y a derrière avec la destinée, aller à la recherche de sa légende personnelle. Mmh. Voilà, je trouve que ce sont des choses importantes.
Est-ce que tu mentors des plus jeunes ?
Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas encore mentoré de D'accord. plus jeunes parce que voilà, pas j'avais pas suffisamment le temps. Il fallait que je développe aussi les activités. Mais je vais commencer dès la semaine prochaine sur un programme qui s'appelle Élite au féminin, dont l'initiatrice est dans la salle.
Ok, voilà. Très bien.
Donc, ça me tient à cœur vraiment de pouvoir aider d'autres jeunes filles
Excellent.
À développer leur potentiel.
Est-ce que toi, tu as des mentors ? Alors, des mentors, des personnes que tu look up, que tu regardes, ou des personnes avec qui tu as vraiment une relation de mentoring, comme tu veux.
Ben, je pense que, quelque part, toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin ont été des mentors. Mmh. Et il y en a certains dans la salle, d'ailleurs. Voilà. Donc, qui m'ont beaucoup apporté. Donc, je pense que, voilà, c'est plusieurs rencontres, en fait, qui m'ont enrichi.
Tu ne veux pas donner de nom ?
Non, j'ai pas un mentor en particulier.
Ok. Est-ce que j'ai des questions que tu aurais voulu que je te pose et que je n'ai pas posées ?
On inverse là, du coup, là.
Oui.
Bah, je préfère que la salle me pose des questions.
Avec plaisir, belle transition. Donc, c'est votre moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ? Je vais, pour le coup, quand même. Non, non, enfin, alors, j'ai coupé le micro podcast. Donc, je suis désolé, vous ne saurez pas dans le podcast. Mais vous pourrez poser les questions et on pourra prendre le temps de répondre. Donc, pour le podcast, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Fatou, je te laisse le mot de la fin pour le podcast et après on continue avec la salle.
Merci beaucoup Malik pour l'invitation, ça m'a fait plaisir et j'espère que mon intervention pourra éclaircir en tout cas les idées ou les pensées des personnes qui écouteront. Voilà.
Ça sera certainement le cas parce que ça a été le cas pour moi et je pense pour beaucoup de gens dans la salle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Fatou. Et à tout...